le journal de George Fox 1666-1673 en Amérique et retour page 3 à droite Twitch J. Cartwright vint dans la maison d'un ami, et étant poussé par le seigneur à dire quelques mots avant de s'asseoir pour souper, voilà qu'un indicateur vint et se tint à écouter sous la fenêtre. Lorsqu'il eut entendu l'ami parler, espérant en tirer quelque profit pour lui-même, il alla faire une dénonciation et obtint un mandat pour saisir les biens des amis sous prétexte qu'il y avait eu une réunion dans sa maison. Toutefois, il n'y avait alors dans la maison que l'ami, le maître de maison, sa femme et leur servante. Comme cet homme aux intentions mauvaises revint de nuit avec son mandat, alors que lui et un autre homme qui l'accompagnait remontaient un creux près de la ville, une chouette vola devant lui et poussa un cri, ce qui fit dire à son compagnon « Dieu le bénisse ». L'indicateur dit « Pourquoi as-tu dit cela? As-tu peur ?» Mais l'indicateur tomba alors de cheval et se brisa le cou. Ainsi fut la fin misérable d'un indicateur méchant, qui espérait s'enrichir en pillant les biens personnels des amis, mais le Seigneur l'en empêcha et le retrancha dans sa méchanceté. Bien que ce fût un temps cruel, sanglant et de persécution, néanmoins la puissance du Seigneur dominait tout, sa semence éternelle prévalait, et les amis furent amenés à tenir ferme et à rester fidèles dans la puissance du Seigneur. Et certains des gens sobres du monde disaient « Si les amis n'avaient pas tenu bon, la nation se serait abandonnée à la boisson et à la débauche. Bien qu'en raison de ma faiblesse je ne puisse voyager parmi les amis comme j'avais coutume de le faire, pourtant, dans le mouvement de la vie, je leur envoyais les lignes suivantes, comme témoignage d'encouragement. Mes chers amis, et la semence est au-dessus de tout. Marchez en elle, en laquelle vous avez tous la vie. Ne vous étonnez pas du temps, en tout temps les justes ont souffert de la part des injustes, mais les justes ont la domination. À travers le temps, vous pouvez lire que par la foi les montagnes furent domptées et que la rage du méchant, avec ses dards enflammés, fut arrêtée. Bien que les vagues et les tempêtes soient hautes, votre foi vous gardera, de sorte que vous pourrez nager au-dessus d'elles, car elles ne sont que pour un temps, et la vérité est hors du temps. Vous qui êtes conduits par la lumière à la montagne de sainteté, demeurez sur la montagne où rien ne vous fera de mal. Ne pensez pas que quoi que ce soit dure plus que la vérité, qui demeure certaine et est au-dessus de tout ce qui est hors de la vérité. Car le bien vaincra le mal, la lumière vaincra les ténèbres, la vie vaincra la mort, la vertu vaincra le vice et la justice vaincra l'injustice. Le faux prophète ne peut vaincre le vrai, mais le vrai prophète, Christ, vaincra tous les faux. Soyez donc fidèles et vivez dans ce qui ne trouve pas le temps long. George Fox, après quelque temps, il plut au Seigneur de diminuer l'intensité de cette violente persécution. Et bien que je fusse très faible, je sentais en mon esprit la victoire sur les esprits de ces prêtres et Dr. Anthropophages qui avaient attisé les persécutions jusqu'à ce degré de cruauté. Moi, les amis venus me visiter et ceux qui étaient avec moi, nous remarquâmes tous que, lorsque la persécution cessa, je fus délivré de l'oppression des travaux et des souffrances qui m'avaient si lourdement accablé. Astérisque, au début du printemps, je commençais à me rétablir et à marcher de nouveau. Cela dépassait l'attente de beaucoup, qui ne pensaient pas que je pourrais jamais sortir à nouveau, tant j'avais été extrêmement faible, à cause du travail et de l'exercice qui pesait sur mon esprit. Mais tous virent et remarquèrent que, lorsque les persécutions cessèrent, je sortis en même temps de mes épreuves et souffrances spirituelles. Astérisque, Fox souffrait dans l'esprit pour d'autres dans le corps du Christ, comme Paul le fit de même. Cela aida ceux qui n'étaient pas assez forts pour endurer leur épreuve de souffrance. Pendant que j'étais sous ce travail et cette souffrance spirituelle, l'état de la cité de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, me fut ouvert, cité que les croyants charnels pensent être une ville physique, comme une ville extérieure qui tomberait du ciel. Mais j'en vis la beauté et la gloire, la longueur, la largeur et la hauteur, le tout en parfaite proportion. Je vis que tous ceux qui sont dans la lumière du Christ, dans sa foi dont il est l'auteur, dans l'Esprit, le Saint-Esprit dans lequel était Christ, les saints prophètes et les apôtres, et dans la grâce, la vérité et la puissance de Dieu, qui sont les murailles de la cité, ceux-là sont dans la cité en son membre, et ont droit de manger de l'arbre de vie, qui donne son fruit chaque mois, et dont les feuilles sont pour la guérison des nations. Mais ceux qui sont hors de la grâce, de la vérité, de la lumière, de l'Esprit et de la puissance de Dieu, ce sont ceux qui résistent au Saint-Esprit, éteignent, contristent et affligent l'Esprit de Dieu, haïssent la lumière, changent la grâce de Dieu en dissolution et méprisent avec arrogance l'Esprit de grâce. Ceux qui se sont écartés de la foi en ont fait naufrage ainsi que d'une bonne conscience, ceux qui abusent de la puissance de Dieu et méprisent la prophétie, la révélation et l'inspiration, ce sont les chiens et les incrédules qui sont hors de la cité. Cela compose la grande cité Babylone, la confusion et saccage, la puissance des ténèbres, et l'esprit mauvais de l'erreur les entoure et les recouvre. Dans cette grande cité Babylone sont les faux prophètes, dans la fausse puissance et le faux esprit, la bête dans la puissance du dragon, et la prostituée qui s'est prostituée loin de l'Esprit de Dieu et de Christ, son mari. Mais la puissance du Seigneur est au-dessus de toute cette puissance des ténèbres, de cette cage, de cette prostituée, de cette bête, de ce dragon, des faux prophètes et de leurs adorateurs, destinés au lac qui brûle de feu. Bien d'autres choses encore vis-je au sujet de la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, qu'il est difficile d'exprimer, et qui serait difficile à recevoir. Mais en bref, cette sainte cité est dans la lumière, et tous ceux qui sont dans la lumière sont dans la cité, dont les portes demeurent ouvertes tout le jour, car il n'y a point de nuit là, afin que tous puissent entrer. Le sang de Christ ayant été versé pour tout homme, il goûta la mort pour tout homme, et éclaire tout homme qui vient au monde, et sa grâce qui apporte le salut, étant apparue à tous les hommes, il n'est aucun lieu ni aucune langue où sa voix ne puisse être entendue. Les chrétiens des temps primitifs furent appelés par Christ une ville située sur une montagne, et ils furent aussi appelés la lumière du monde et le sel de la terre. Mais lorsque les chrétiens perdirent la lumière, le sel et la puissance de Dieu, ils en vinrent à être foulés aux pieds comme du sel sans saveur. Tout comme les Juifs furent préservés au-dessus de toutes les nations tant qu'ils gardèrent la loi de Dieu, mais lorsqu'ils tournèrent le dos à Dieu et à sa loi, ils furent foulés aux pieds par d'autres nations. De même Adam et Ève, tant qu'ils obéirent à Dieu, furent gardés dans son image et dans le paradis de Dieu, en domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais lorsqu'ils désobéirent à Dieu, ils perdirent l'image de Dieu, la justice et la sainteté dans lesquelles ils avaient été créés. Ils perdirent leur domination, furent chassés du paradis, et tombèrent ainsi sous la sombre puissance de Satan, et sous les chaînes des ténèbres. Mais la promesse de Dieu était que la postérité de la femme, Christ Jésus, écraserait la tête du serpent, briserait sa puissance et son autorité, qui avait conduit en captivité et tenu l'homme en prison. Ainsi Christ, qui est le premier et le dernier, affranchit l'homme, et est la résurrection des justes et des injustes, le juge des vivants et des morts, et ceux qui sont en lui sont investis d'un repos et d'une paix éternelle, hors de tous les labeurs, travaux et misères d'Adam dans la chute. Il est donc suffisant et pleinement capable de restaurer l'homme dans l'état où il était avant de tomber, et non pas dans cet état seulement, mais aussi dans l'état qui n'est jamais tombé, et au-delà même de cet état jusqu'à lui-même. Au même moment que j'étais dans la souffrance et les travaux, j'eus une vision, je marchais dans les champs, et beaucoup d'amis étaient avec moi. Je leur dis de creuser la terre, ce qu'ils firent. Je descendis là où ils avaient creusé et vis une immense voûte remplie jusqu'en haut de gens. Je dis donc aux amis d'ouvrir la terre et de laisser sortir tous ces gens. Ils le firent, et tout le monde sortit en liberté, c'était un lieu immense. Quand les amis eurent terminé, je continuai et leur dis de creuser encore, ce qu'ils firent. Nous trouvâmes une autre immense voûte. Je leur dis de la renverser et de laisser sortir tous ces gens, ce qu'ils firent, puis je continuai encore et leur dis de creuser de nouveau. Les amis me dirent « Georges, tu trouves toutes choses ». Ils creusèrent donc là, et je descendis. Une femme en blanc était assise là, regardant comment le temps s'écoulait. Une autre femme descendit dans la voûte où il y avait un trésor. La femme posa une main sur le trésor et l'autre sur ma main gauche, et le temps passait très vite. Mais alors je saisis sa main et lui dis de ne pas toucher le trésor. Cela ralentit le passage du temps, ceux qui peuvent comprendre de telles choses doivent se voir ôter la terre et la nature pierreuse. Voyez comment les pierres et la terre ont pesé sur l'homme depuis le commencement, depuis qu'il s'est écarté de l'image de Dieu avec justice et sainteté. Je pourrais beaucoup parler de ces choses, mais je les laisse à l'œil droit et au lecteur pour voir et comprendre. J'eus aussi, en ce temps-là, un grand exercice et un travail d'esprit au sujet des puissances et des gouvernants de ces nations, d'après le sentiment que j'avais des nombreuses visites pleines de douceur et des avertissements fidèles qui leur avaient été donnés, et du grand abus qu'ils en avaient fait, eux qui avaient refusé d'entendre et rejeté le conseil du Seigneur. Et bien que je susse que les amis seraient quittes de leur sang, je ne pouvais que pleurer sur eux et publier ces quelques lignes à leur sujet. Nous leur avons accordé une visite, nous les avons fidèlement avertis, nous leur avons déclaré notre innocence et notre droiture, et que nous n'avons jamais fait aucun mal au roi ni à aucun de son peuple. Nous n'avons dans nos cœurs que de l'amour et de la bienveillance envers lui et son peuple, et nous désirons leur bien éternel. Mais s'ils ne veulent pas entendre, alors le jour du jugement, de la tristesse, du tourment, de la misère et d'une destruction soudaine viendra sur eux de la part du Seigneur, eux étant ceux qui ont été la cause des souffrances de plusieurs milliers de gens simples, innocents et inoffensifs, qui ne leur ont fait aucun mal, et qui n'ont aucune mauvaise intention envers eux. Au contraire, ces innocents ont désiré leur bien éternel, pour l'amour de la vérité éternelle. La destruction viendra sur ceux qui retournent l'épée du magistrat en arrière pour punir ceux qui font le bien. Ne fermez donc pas les yeux, le Seigneur fera venir sur vous une destruction et une misère rapide. Assurément il le fera, et il délivrera son peuple innocent, qui a gémi pour être délivré de votre oppression, et qui a aussi gémi pour que vous soyez délivré de la méchanceté. Béni soit le Seigneur Dieu, qui a un peuple dans cette nation qui cherche le bien de tous les hommes sur la face de la terre, car nous avons l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui ne désire pas la mort du pécheur, mais le salut et le bien de tous. Béni soit le nom du Seigneur notre Dieu à jamais. George Fox. Tandis que je demeurais à Enfield, je ressentis le tort qui arrivait parfois lorsque des personnes, se réclamant de la profession de la vérité, passaient d'un pays dans un autre pour prendre mari ou femme parmi les amis, là où elles étaient étrangères, et qu'on ne savait pas si elles étaient libres de tout empêchement et en bon ordre ou non. Et il me fut donné de recommander aux amis la méthode suivante, afin de prévenir de tels inconvénients. Que tous les amis qui se marient, hommes ou femmes, s'ils viennent d'une autre nation, île, colonie ou comté, apportent un certificat de la réunion des hommes de ce comté, nation, île ou colonie d'où ils viennent, à la réunion des hommes où ils déclarent leur intention de mariage. Car la réunion des hommes étant composée de fidèles, cela empêchera tous les mauvais esprits et les esprits immatures d'aller rôder ça et là. Quand quelqu'un vient avec un certificat ou une lettre de recommandation d'une réunion d'hommes à une autre, l'une est réconfortée par l'autre et peut mettre ses mains et son cœur à l'œuvre. Cela évitera bien des troubles. Et ensuite, lorsque vous aurez à leur parler dans la puissance de Dieu, en les admonestant et en les instruisant, vous êtes laissés à la puissance et à l'Esprit de Dieu pour le faire, et pour leur faire connaître le devoir du mariage et ce qu'il est, afin qu'il y ait unité et concorde dans l'Esprit, et la puissance, la lumière et la sagesse de Dieu, dans toutes les réunions des hommes du monde entier, en un seul, dans la vie. Que des copies en soient envoyées à chaque comté, nation et île où se trouvent des amis, afin que toutes choses soient gardées saintes, pures et justes dans l'unité et la paix, et que Dieu par-dessus tout soit glorifié parmi vous, son lot, son peuple et son héritage, ses fils et filles adoptifs et les héritiers de sa vie. Ainsi rien de plus, sinon mon amour en ce qui ne change pas. George Fox. Le 14 du premier mois, 1671, quand je fus rétabli, au point de pouvoir marcher un peu de long en large, j'allai d'Enfield chez Gérard Robert de nouveau, et de là à l'école des femmes à Shacklowell, puis à la réunion de Gracechurch Street à Londres, où bien que je fusse encore faible, la puissance du Seigneur me soutint et me rendit capable d'annoncer sa parole éternelle de vie. Vers ce temps-là, je fus porté à prier le Seigneur ainsi, « Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais prospérer la vérité, et préserve la justice et l'équité dans le pays, et abat toute injustice, iniquité, oppression, fausseté, cruauté et dureté sans miséricorde dans le pays, afin que la miséricorde et la justice fleurissent, et ô Seigneur Dieu, établis et affermis la vérité, et préserve-la dans le pays. » Abat dans le pays toute ivrognerie, débauche, vice, prostitution, fornication, et cet esprit de viol, qui fait et conduit les gens à n'avoir aucune estime de toi, ô Dieu, ni de leurs propres âmes ou corps, ni du christianisme, de la pudeur ou de l'humanité, ô Seigneur. Mets dans le cœur des magistrats d'abattre toute cette impiété, cette violence, cette cruauté, cette profanation, ces malédictions et ces jurons, et de supprimer toutes ces maisons de débauche et ces théâtres, qui corrompent la jeunesse et les gens, et les détourne de ton royaume, où rien d'impur ne peut entrer ni n'entrera. De telles œuvres mènent les gens en enfer. Seigneur, dans ta miséricorde, abat toutes ces choses dans la nation, afin d'arrêter ta colère, ô Dieu, qui vient sur le pays. George Fox. Cette prière fut écrite le 17 du 2e mois, 1671. J'ai mentionné plus haut que, sur avis reçu que ma femme avait été reprise et remise en prison, j'envoyai deux de ses filles au roi, et elles obtinrent de lui un ordre au shérif du Lancashire pour sa libération. Mais bien que je m'attendisse à ce qu'elle fût remise en liberté par son ordre, pourtant cette violente tempête de persécution survenant soudain, les persécuteurs là-bas trouvèrent moyen de la maintenir en prison. Mais maintenant que la persécution s'était un peu relâchée, je fus poussé à demander à Morse Fichet et à Nastranger Astérisque d'aller trouver le roi au sujet de sa liberté. Elles y allèrent dans la foi et dans la puissance du Seigneur, et il leur donna faveur auprès du roi, de sorte qu'il accorda une décharge sous le grand sceau, afin de la disculper, elle et ses biens, après qu'elle eût été prisonnière pendant 10 ans et mise en accusation. Une telle décharge était presque sans précédent en Angleterre. J'envoyai vite la décharge par un ami, par qui j'écrivis aussi à ma femme pour lui indiquer comment la faire remettre au juge, et aussi pour l'informer qu'il m'était imposé par le Seigneur de passer au-delà des mers, pour visiter les plantations en Amérique, et je la priai donc de se hâter de venir à Londres, dès qu'elle le pourrait commodément après avoir recouvré sa liberté, car le navire se préparait alors pour le voyage. Entre-temps j'allai à Kingston et demeurai chez John Rose jusqu'à ce que ma femme arrivât, puis je commençai à me préparer pour le voyage. Mais comme le temps de l'assemblée annuelle approchait, je retardai mon départ jusqu'à ce qu'elle fût passée. Beaucoup d'amis vinrent à l'assemblée de toutes les parties de la nation, et ce fut une assemblée très grande et précieuse, car la puissance du Seigneur dominait tout, et sa glorieuse semence de vie, renommée à jamais, fut exaltée au-dessus de tout. Astérisque Anna Stranger était de ceux qui avaient été un soutien majeur dans l'égarement avec James Naylor, en l'appelant de plusieurs titres élevés, manifestement maintenant rétabli dans la vérité et l'unité de l'esprit. Ceci témoigne de la politique des Quakers. Si une erreur avait été commise et condamnée par la personne en erreur, elle était totalement oubliée. Après que cette assemblée fut terminée et que j'eus achevé mes services pour le Seigneur en Angleterre, le navire et les amis qui devaient m'accompagner étaient prêts et je me rendis à Gravesend le 12 du 6 mois. Les amis qui étaient engagés pour le voyage avec moi descendirent au navire la nuit précédente. Leurs noms étaient Thomas Brigg, William Edmondson, John Roos, John Stubb, Solomon Eccles, James Lancaster, John Cartwright, Robert Withers, George Pattison, John Rull, Elizabeth Houghton et Elizabeth Mier. Le bâtiment dans lequel nous devions aller était un yacht, appelé Elle Industry. Le maître se nommait Thomas Forster, et le nombre de passagers était d'environ 50. Je passai cette nuit-là à bord, mais la plupart des amis couchèrent à Gravesend. Tôt le lendemain matin, les passagers et les amis qui avaient l'intention de nous accompagner jusqu'au Down étaient montés à bord, et nous fîmes nos adieux avec une grande tendresse à ceux qui ne venaient avec nous qu'à Gravesend. Puis nous appareillâmes vers 6 heures du matin pour les Downs. La femme de George Fox nous accompagna en bateau jusqu'au port suivant. Avec un vent favorable, nous dépassâmes tous les navires qui partaient au large et nous y arrivâmes dans la soirée. Quelques-uns d'entre nous, dont George Fox et sa femme, descendirent à terre cette nuit-là et logèrent à Deal, où nous apprîmes qu'un officier avait reçu l'ordre du gouverneur de prendre nos noms par écrit, ce qu'il fit le lendemain matin, bien que nous lui eussions dit qu'ils avaient déjà été pris à Gravesend. L'après-midi, le vent étant propice, je pris congé de ma femme et des autres amis, et je montai à bord. Avant que nous puissions lever l'ancre, deux frégates du roi étant mouillées dans les Downs, le capitaine de l'une d'elles envoya à bord son maître de presse, qui enleva trois de nos marins. Cela aurait certainement retardé, sinon entièrement empêché notre voyage, si le capitaine de l'autre frégate, ayant été informé de l'état de fuite de notre bâtiment et de la longueur de notre voyage, n'avait, par compassion et avec beaucoup de civilité, consenti à nous laisser deux de ses hommes. Avant que cela fût terminé, un officier de la douane monta à bord pour examiner nos bagages et percevoir des droits, de sorte que nous fûmes empêchés de partir jusqu'au coucher du soleil. Pendant cet arrêt, un très grand nombre de navires marchands, en partance, avaient plusieurs lieues d'avance sur nous. Une fois libres, nous appareillâmes dans la soirée et, le lendemain matin, rattrapâmes une partie de cette flotte à la hauteur de Douvres. Nous rejoignîmes bientôt le reste et, en peu de temps, les laissâmes tous derrière nous, car notre yacht était réputé être un bâtiment très rapide à la voile. Mais il faisait beaucoup d'eau, de sorte que les marins et quelques passagers pompaient pour la plupart jour et nuit. Un jour, ils observèrent qu'en l'espace de 2 heures, ils prenaient 16 pouces d'eau dans la cale. La section suivante a été omise du journal d'Elwood, mais incluse dans le journal de Cambridge. Les parties intéressantes du journal de bord quotidien, tenues par John Rull, sont incluses afin de voir un relevé clair d'un voyage en mer du XVIIe siècle à travers l'Atlantique. 16 nous allâmes jusqu'à l'île de Wight. 17 nous progressâmes jusqu'à Absom, dans le Devonshire, au nord. Nous avions désormais devancé la flotte depuis environ 2 jours. Nous eûmes une très bonne réunion ce soir. Dans l'après-midi, nous étions montés jusqu'à Dartmouth. Le vent était faible mais, grâce à Dieu, tout le monde s'en est assez bien trouvé. Le soir, nous passâmes Eddystone, qui avait détruit de nombreux navires. Nous rencontrâmes un navire d'Irlande à destination de Londres, et nous eûmes une très bonne brise toute la nuit. 18 vers 5 h du matin, nous passâmes à 4 lieues au sud de l'Isard et peu après vîmes Land's End. Ensuite, nous vîmes une flotte d'environ 40 navires hollandais qui avaient quitté les Downs environ une semaine avant la flotte qui était partie le matin précédent, avant nous. Nous eûmes un bon vent et dépassâmes aussi la flotte hollandaise. 19 nous perdîmes la flotte de vue, mais 2 navires s'en étaient détachés, que nous supposâmes se diriger vers la Virginie. 20 nous revîmes les 2 navires, l'un avait perdu le grand mât. Ce matin, nous rencontrâmes une flotte de navires hollandais et quelques-uns étaient anglais. Nous étions juste avant le golfe de Gascogne. 22 nous traversons toujours le golfe. Les amis ont eu le mal de mer depuis environ 2 jours, surtout John Cartwright qui avait de la fièvre. Ce soir-là, George Fox fut poussé à prier pour lui. 23 notre été principal cordage qui soutient le mât du bateau avait été entaillé par frottement, mais on put le réparer. Les amis vont mieux. John Cartwright pensait qu'il allait mourir, mais il lui fut révélé qu'il devait aller prêcher l'Évangile. Nous eûmes une bonne réunion ce soir-là dans notre cabine. 24 nous trouvâmes John Stubb malade, et le chirurgien dit qu'il avait de la fièvre et transpirait en sueur à bout de souffle. Nous passâmes le Cap Nord et nous sommes au large des côtes du Portugal. Nous avons parcouru 180 milles au cours des dernières 24 heures, Nous vîmes plusieurs dauphins s'ébattre et deux énormes marsouins bondir à grande hauteur hors de l'eau. Nous terminâmes la journée par une belle réunion. 25 environ 90 milles aujourd'hui. Le vent commença léger puis se renforça l'après-midi. John Stubb va assez mieux pour manger de nouveau. Nous attrapâmes un dauphin qui était superbe de couleurs variées, excellent à manger et fit un bon bouillon, ce qui releva plusieurs amis malades de leur état. 26 aucun poisson aperçu aujourd'hui. Vent fort. George Fox, John Stubbs et moi avons passé 2 heures dans notre cabine à examiner quelques écritures. 27 peu de vent. Nous attrapâmes 2 dauphins. Les amis se portent assez bien. Nous eûmes 2 réunions aujourd'hui, les passagers étant très attentifs. Nous eûmes 1 réunion entre nous dans notre cabine ce soir-là. Notre navire fait tant d'eau que marins et passagers passent la plupart du jour et de la nuit à pomper environ 10 tonnes d'eau hors du navire par jour. Mais cela les maintient en bonne santé. 28 ce matin, George Fox, John Stubb et moi avons été occupés à rechercher la signification des 4 fleuves d'Éden, selon le texte hébreu, ainsi que leur sens. Nous sommes à peu près à la même latitude que Lisbonne. 29 nous avons navigué 75 milles, les amis vont bien, vent faible, mer calme, fortes averses ce matin de bonne heure, 30 mer calme, nous avons chaud immobile, il est très inconfortable de dormir près de quelqu'un à cause de la chaleur. 7 mois, 1er, j'étais très malade hier et aujourd'hui, toujours chaud, pas de vent. Une brise arriva enfin. Les amis sont en assez bonne santé. Toujours trop chaud pour dormir à 2 côte à côte. Thomas Forster attrapa un énorme dauphin, qui était probablement le compagnon du dernier prix, car il nous avait suivis depuis lors avec des poissons volants et un autre dauphin. Fox reprend. Quand nous eûmes été environ 3 semaines en mer, un après-midi, nous aperçûmes un bâtiment à environ 4 lieues derrière nous. Notre maître dit que c'était un navire de guerre turc de Salé, et il semblait nous donner la chasse. Notre maître dit, « Allons, allons souper, et quand il fera sombre, nous le perdrons. » Il disait cela pour apaiser les passagers, dont quelques-uns commençaient à être très inquiets du danger. Mais les amis étaient bien tranquilles, ayant foi en Dieu et sans crainte en leurs esprits. Quand le soleil fut couché, je vis le navire depuis ma cabine venir vers nous. Quand la nuit tomba, nous changeâmes de route pour l'éviter, mais il changea aussi et se rapprocha de nous. La nuit, le maître et d'autres vinrent dans ma cabine et me demandèrent, « Que devons-nous faire ?» Je leur dis, « Je ne suis pas marin, et je leur demandai, « Que pensez-vous qu'il soit le mieux de faire ?» Ils dirent, « Il n'y a que 2 moyens, ou bien le distancer, ou bien virer de bord et tenir le même cap que nous suivions auparavant. » Je leur dis, « S'il est un voleur, vous pouvez être sûr qu'il virera de bord aussi, et quant à le distancer, il est inutile d'en parler, car vous voyez qu'il va plus vite que nous. » Ils me demandèrent encore, « Que devons-nous faire ?» Car, disaient-ils, si les marins avaient suivi le conseil de Paul, ils n'auraient pas subi les dommages qu'ils ont eus. Je répondis, « C'est une épreuve de foi, il faut donc attendre le Seigneur pour le conseil. » Ainsi, me retirant en esprit, le Seigneur me montra que sa vie et sa puissance étaient placées entre nous et le navire qui nous poursuivait, je le dis au maître et aux autres, et que la meilleure voie était de virer de bord et de reprendre notre route. Je leur recommandai aussi d'éteindre toutes leurs chandelles, sauf celles utilisées pour la barre, et de dire à tous les passagers de rester immobiles et tranquilles. Vers la 11e heure de la nuit, la vigie appela et dit, « Ils sont juste sur nous. » Cela troubla certains passagers, alors je me redressai dans ma cabine et, regardant par le sabord, la lune n'étant pas tout à fait couchée, je les vis très près de nous. Je me levai pour sortir de la cabine, mais me souvenant de la parole du Seigneur, que sa vie et sa puissance étaient placées entre nous et eux, je me recouchai. Le maître et quelques marins revinrent et me demandèrent s'ils ne pouvaient pas gouverner sur tel point. Je leur dis, « Ils peuvent faire comme ils veulent. » À ce moment-là, la lune s'était entièrement couchée, une bonne brise s'éleva, et le Seigneur nous cacha à leurs yeux, et nous voguâmes vivement, et ne les vîmes plus. Le lendemain, qui était le 1er jour de la semaine, nous eûmes 1 réunion publique sur le navire, comme nous avions coutume de l'avoir ce jour-là pendant tout le voyage, et la présence du Seigneur fut grandement parmi nous. Je recommandai aux gens de se souvenir des miséricordes du Seigneur, qui les avait délivrés, car ils auraient pu tous être alors entre les mains des Turcs, si la main du Seigneur ne les avait sauvés. Environ 1 semaine plus tard, le maître et quelques marins s'efforcèrent de persuader les passagers que ce n'était pas un pirate turc qui nous avait poursuivis, mais un navire marchand allant aux Canaries. Quand je l'appris, je leur demandai, « Pourquoi alors m'ont-ils parlé ainsi? Pourquoi ont-ils troublé les passagers? Et pourquoi ont-ils viré de bord pour l'éviter et changer de route ?» Je leur dis, « Qu'ils prennent garde de mépriser les miséricordes de Dieu. » Plus tard, lorsque nous fûmes à la Barbade, un marchand de Salé arriva et dit aux gens qu'un des navires de guerre de Salé avait vu en mer un yacht monstrueux, le plus grand qu'il eût jamais vu, il l'avait pris en chasse et était juste sur lui, mais qu'il y avait en lui un esprit qu'il ne pouvait pas saisir. Cela nous confirma dans la croyance que c'était bien un navire de guerre de Salé que nous avions vu nous poursuivre et que c'était le Seigneur qui nous avait délivrés de ses mains. Retour au journal de bord du groupe par John Rull, d'après le journal de Cambridge, il se passa peu de choses dignes d'être notées jusqu'au 14 Sid sous 14 bon vent. Les amis et les passagers se portent généralement bien. Le soleil devient très chaud. Les jambes de George Fox enflent, se couvrent de boutons, le démangent et le brûlent beaucoup. 15 Nous mangeâmes un poisson volant qui avait volé à bord pendant la nuit. 16 Nous sommes à moins de 90 milles du tropique du cancer. Les amis sont en assez bonne santé, excepté moi, je suis ordinairement malade. 17 Nous avons fait environ 12 milles en une heure aujourd'hui. 18 Nous sommes au sud du tropique du cancer d'environ 56 milles. Je vis aujourd'hui plusieurs poissons volants, 5 ou 6 à la fois, certains volant sur 200 yards ou plus. 19 Nous eûmes une bonne réunion avant de nous coucher. 21 George Fox a très mal à l'estomac ce matin. Nous vîmes un oiseau tropical, beaucoup de harengs, un herringhog, un marsouin qui suit les harengs et les mange, et plusieurs dauphins. 22 D'autres oiseaux tropicaux vus. George Fox est très malade ce soir. Il a été très malade ces derniers jours jusqu'aux os, vent calme. George Fox essaya de manger un peu de porc légèrement avarié, et cela sentait si mauvais qu'à présent il a en horreur la viande et n'en supporte plus. 23 Le pompage est toujours très nécessaire. Nous vîmes un navire cet après-midi. Solomon Eckel observe un jeûne de 7 jours, ne buvant pas d'eau, ne mangeant pas, ne faisant que se rincer la bouche de temps à autre avec du vinaigre. Il ne se couche ni ne dort guère, seulement parfois il somnole assis. 24 Nous revîmes le navire. Il s'approcha très près de nous et nous persuadâmes notre maître de l'attendre. Il vint bord à bord avec nous, et notre maître l'interpella. Il répondit qu'il était parti de Londres à peu près au même moment que nous, et qu'il allait aussi à la Barbade. George Fox est très malade et vomit une phlegme froide et aqueuse, bien qu'il n'ait jamais eu le mal de mer. 25 Nous revîmes le navire, mais avec une brise fraîche nous le laissâmes hors de vue. 26 Beaucoup de marsouins, plusieurs oiseaux. Un oiseau appelé Manovo ressemble à un héron. 29 Nous estimons être à environ 300 milles de la Barbade. Vîmes un oiseau appelé Booby, gros comme une oie. Les amis se portent généralement bien, et George Fox aussi. Ce jour est appelé la Saint-Michel. 30 Nous vîmes beaucoup de marsouins et tout un vol d'oiseaux au loin. Nous sommes à un ou deux jours de la Barbade. Pour conclure, George Fox, bien que mieux, n'a guère été bien, presque depuis le moment où nous avons quitté l'Angleterre. En mer, ses jambes et son estomac enflèrent tellement qu'on eût dit que sa peau allait se fendre. Avec les anciennes douleurs et les anciennes contusions provenant des coups qu'il avait endurés dans ses articulations, de grandes douleurs le saisirent à l'estomac et au cœur, de sorte qu'il devint d'une faiblesse inexprimable, ce qui aurait tué d'autres hommes. Et ensuite, pendant un mois, il ne put pas transpirer du tout, ni en mer, ni lorsque nous eûmes débarqué pendant 3 semaines. Nous lui donnâmes plusieurs choses pour le faire transpirer, mais il ne faisait que se dessécher davantage. Il pouvait à peine boire autre chose que de l'eau mêlée de gingembre. Et après le débarquement, depuis plus de 3 semaines, il n'a pas transpiré et souffre beaucoup dans les os, les articulations et tout le corps, incapable de dormir. Malgré tout cela, il reste gai et demeure au-dessus de tout. L'île est très agitée par sa venue, et beaucoup d'amis et d'autres personnes de considération sont venus lui rendre visite à bord, mais il n'a pu assister à aucune réunion, ce qui a quelque peu atténué et éteint l'enthousiasme dans l'île, Fox reprend. Je n'eus pas le mal de mer durant le voyage, comme beaucoup des amis et des autres passagers, mais les nombreuses blessures et contusions que j'avais autrefois reçues, et les infirmités que j'avais contractées en Angleterre par le froid extrême et les épreuves que j'avais subies dans de longues et rudes emprisonnements, revinrent sur moi en mer, de sorte que j'étais très mal à l'estomac et rempli de douleurs violentes dans mes os et mes membres. Cela survint après que j'eus été en mer environ un mois, car durant l'espace d'environ 3 semaines après mon premier départ en mer, je transpirais abondamment, surtout de la tête, et mon corps se couvrit de boutons, et mes jambes et mes pieds étaient extrêmement enflés, de sorte que mes bas et mes pantoufles ne pouvaient être enfilés sans difficulté et grande douleur. Tout à coup, la transpiration cessa de sorte que lorsque j'entrais dans le climat chaud, où les autres transpiraient très librement, je ne pouvais pas transpirer du tout, mais ma chair était chaude, sèche et brûlante, et comme auparavant je me couvris de boutons. La douleur me reprit à l'estomac et au cœur, de sorte que j'étais très malade et d'une faiblesse au-delà de toute expression. Ainsi continuai-je pendant le reste du voyage, qui dura environ un mois, car nous restâmes 7 semaines et quelques jours en mer. Le 3e du 8e mois, de grand matin, nous découvrîmes l'île de la Barbade, mais il était entre 9 et 10 heures du soir avant que nous ne jetions l'ancre dans la baie de Carlisle. Nous gagnâmes la terre dès que nous le pûmes, et je marchai avec quelques autres jusqu'à la maison d'un ami, marchand, nommé Richard Faustol, à plus d'un quart de mille du pont. Mais étant très malade et faible, J'étais si fatigué que, lorsque j'y arrivais, j'étais pour ainsi dire complètement épuisé. Je restai là, à l'intérieur, très malade pendant plusieurs jours, et bien qu'on me donnât souvent des choses pour me faire transpirer, je ne transpirais toujours pas. Ce qu'on me donnait ne faisait plutôt que dessécher et durcir mon corps et me rendait probablement pire que je ne l'aurais été autrement. Ainsi continuai-je environ 3 semaines après avoir débarqué, avec de grandes douleurs dans mes os, mes articulations et tout mon corps, de sorte que je pouvais à peine trouver du repos, pourtant j'étais assez enjoué, et mon esprit demeurait au-dessus de tout cela. Mon mal ne m'empêcha pas non plus de travailler au service de la vérité, mais, tant pendant que j'étais en mer qu'après mon arrivée à la Barbade, avant que je fusse en état de voyager, je publiai plusieurs écrits, ayant un ami pour écrire à ma place, dont certains furent envoyés par le premier bateau allant en Angleterre afin d'être imprimés. Après m'être reposé 3 ou 4 jours chez Richard Faustel, où beaucoup d'amis vinrent me voir, John Rouse vint me chercher pour m'emmener chez son père, Thomas Rouse, en voiture, voiture qu'il avait empruntée à l'une de ses connaissances là-bas, appelée le colonel Chamberlain. Mais il était tard avant que nous puissions y arriver, et je n'eus que peu ou point de repos cette nuit-là. Quelques jours plus tard, le colonel Chamberlain, qui avait si obligeamment prêté sa voiture, vint me rendre visite, et il se conduisit envers moi avec beaucoup de courtoisie. Peu après mon arrivée dans l'île, on m'informa d'un passage remarquable où la justice de Dieu parut de manière éminente. Voici comment. Il y avait un jeune homme de la Barbade, nommé John Drakes, personne de quelque considération selon le monde, mais jurant sans cesse et mauvais sujet. Lorsqu'il était à Londres, il décida d'épouser la fille d'une amie, laissée fort jeune par sa mère, avec un héritage considérable, elle avait été confiée pour ses soins et son éducation à plusieurs amis, dont j'étais. Il s'adressa à moi afin d'obtenir mon consentement pour épouser cette jeune fille. Je lui dis, je suis l'un de ses tuteurs, désigné par sa mère veuve pour veiller sur elle, que si sa mère avait voulu la donner en mariage à quelque homme du monde, elle en aurait disposé en conséquence, mais elle a remis sa fille entre nos mains à nous, amis, afin qu'elle soit élevée dans la crainte du Seigneur, et par conséquent si je consentais à ce que vous l'épousiez, vous qui êtes hors de la crainte de Dieu, je trahirais la confiance placée en moi, et je ne le ferai pas. Voyant qu'il ne pouvait obtenir ce qu'il désirait, il retourna à la Barbade avec un grand ressentiment contre moi, mais sans juste cause. Plus tard, apprenant que je venais à la Barbade, il jura avec désespoir et menaça, « S'il peut d'une manière ou d'une autre l'obtenir, il me fera brûler vif quand je viendrai là-bas. » Un ami, l'ayant entendu, lui demanda, « Qu'ai-je fait pour que vous soyez si violent contre moi ?» Il ne répondit pas, mais dit encore, « Je le ferai brûler. » L'ami répliqua, « Ne laissez pas la colère sans frein guider votre vie, sinon vous pourriez parvenir trop tôt au terme de votre route. » Environ 10 jours après, il fut frappé d'une violente fièvre brûlante dont il mourut, son corps en fut si desséché et brûlé que les gens disaient qu'il était noir comme du charbon, et 3 jours avant mon débarquement, son corps fut mis en terre. On y vit un triste exemple de ce que c'est que de vivre dans la rage, hors de la crainte de Dieu. Pendant que je demeurais si faible que je ne pouvais me rendre aux réunions, les autres amis venus avec moi se réveillèrent vigoureusement pour l'œuvre du Seigneur. Le lendemain même de notre arrivée à terre, ils tinrent une grande réunion au pont, puis plusieurs réunions en différents endroits de l'île, ce qui alarma les gens de toutes sortes, si bien que beaucoup vinrent à nos réunions, et même quelques personnes du plus haut rang. Car ils connaissaient mon nom, ayant appris que j'étais arrivé dans l'île, et s'attendaient à me voir à ces réunions, ne sachant pas que j'étais incapable de voyager. En effet, ma faiblesse se prolongea d'autant plus que mon esprit fut dès le début accablé par la saleté, l'ordure et l'injustice du peuple, qui pesaient sur moi comme un fardeau lourd. Mais après avoir passé plus d'un mois sur l'île, mes esprits furent quelque peu soulagés, et je commençai à recouvrer santé et force et à voyager parmi les amis. Entre-temps, ayant l'occasion d'envoyer une lettre en Angleterre, j'écrivis aux amis là-bas pour leur faire savoir comment j'allais, comme suit, « Chers amis, j'ai été très faible ces 7 dernières semaines et incapable d'écrire moi-même. Mon désir pour vous, et pour vous tous, est que vous viviez dans la crainte de Dieu et dans l'amour les uns envers les autres, et que vous soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Dieu. J'ai été plus faible de corps que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, autant que je m'en souvienne, oui, mes douleurs ont été telles que je ne puis les exprimer, et pourtant ma santé et mon esprit sont forts. Je n'ai presque pas transpiré ces 7 dernières semaines, bien que je sois dans un climat très chaud, où presque tout le monde transpire continuellement. Mais pour moi, mes anciennes contusions, refroidissements, engourdissements et douleurs se sont portés au-dedans, jusque dans mon cœur même. Ainsi j'ai eu peu de sommeil, et les choses les plus supportables pour mon estomac étaient un peu d'eau et du gingembre en poudre, mais maintenant j'ai commencé à boire un peu de bière ainsi que de l'eau, et parfois un peu de vin mêlé d'eau. J'ai ressenti de grandes douleurs et de grands labeurs, et j'en porte encore la mesure, mais cela va bien, ma vie en Dieu domine tout. Cette île était pour moi comme tout en feu avant que j'y vienne, mais maintenant c'est quelque peu éteint et diminué. Je suis venu dans la faiblesse parmi ceux qui sont forts, et j'y suis resté, mais à présent je me suis un peu ragaillardi et j'en suis sorti. Beaucoup d'amis et quelques personnes considérables du monde ont été avec moi. J'ai beaucoup épuisé mon corps lorsque j'étais parmi vous en Angleterre. C'est la puissance du Seigneur qui me vient en aide, c'est pourquoi je désire que vous tous prisiez la puissance du Seigneur et sa vérité. Je n'étais que faible de corps quand je vous ai quitté, après avoir été dans mon grand labeur parmi vous, mais ensuite le mal est revenu à l'attaque dans mon corps, qui n'était pas en très bon état après tous les labeurs en Angleterre. Et puis j'étais si fatigué en mer que je ne pouvais me reposer, et j'ai eu peu ou point d'appétit pendant longtemps. Depuis que je suis venu dans cette île, ma vie a été très chargée, mais j'espère que, si le Seigneur me donne la force de conduire son œuvre, je travaillerai à fond et mettrai en meilleur ordre les choses qui étaient déréglées. Ainsi, chers amis, vivez tous dans la vérité pacifique et dans son amour, servant le Seigneur dans la nouveauté de vie, car des choses glorieuses et des vérités précieuses ont été manifestées abondamment parmi vous, et les richesses du royaume vous ont été atteintes. Je suis depuis presque un mois dans cette île, mais je n'ai pas été en état de sortir ni de monter à cheval, seulement tout dernièrement j'ai fait deux sorties à cheval, d'un quart de mille à chaque fois, ce qui m'a beaucoup fatigué. Mon amour dans la vérité est pour vous tous. George Fox, comme je n'étais pas en état de voyager, les amis de l'île décidèrent de tenir leur réunion d'hommes et de femmes pour le service de la maison au clocher chez Thomas Rouse, où j'étais alité. Ainsi je fus présent à chacune de leurs réunions, et j'eus un très bon service pour le Seigneur dans les deux. Car ils avaient besoin d'être instruits sur bien des choses, divers désordres s'étant glissés faute de soins et de vigilance. Je les exhortai, particulièrement à la réunion des hommes, à être prudents au sujet des mariages, afin d'empêcher les amis d'épouser leurs proches parents, et aussi d'empêcher des démarches trop hâtives pour un second mariage après la mort d'un mari ou d'une épouse, conseillant qu'on ait en pareil cas un égard convenable à la mémoire du défunt mari ou de la défunte épouse. Quant aux enfants des amis qui se marient trop jeunes, dès 13 ou 14 ans, je leur montrai combien cela était inapproprié, et les inconvénients et préjudices qui surviennent dans de tels mariages d'enfants. Je les avertis de purger entièrement l'air et de balayer leur maison très proprement, afin qu'il ne reste rien qui puisse souiller, et que tous prennent garde à ce qu'on ne rapporte rien hors des réunions qui puissent ternir ou diffamer l'un ou l'autre. Concernant l'enregistrement des mariages, naissances et enterrements, je leur conseillais de tenir des registres exacts de chacun dans des livres distincts réservés à cet usage. Je conseillais aussi d'inscrire dans des livres séparés pour chaque objet, y compris les condamnations de ceux qui s'étaient écartés de la vérité vers des pratiques désordonnées, ainsi que le repentir et le rétablissement de ceux qui revenaient. Je recommandais à leurs soins de pourvoir des lieux d'inhumation convenables pour les amis, ceux qui, en certains endroits, n'étaient pas encore établis. Je leur donnai aussi quelques directives concernant les testaments et l'administration des legs laissés par les amis pour des usages publics, ainsi que d'autres choses relatives aux affaires de l'Église. Au sujet de leurs nègres, je les priai de s'efforcer de les élever dans la crainte de Dieu, non seulement ceux qui avaient été achetés avec leur argent, mais aussi ceux qui étaient nés dans leur famille, afin que tous puissent venir à la connaissance du Seigneur, de sorte qu'avec Josué, chaque maître de maison puisse dire « Pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Je désirais aussi qu'ils fassent en sorte que leurs intendants traitent leurs nègres avec douceur et bénignité, et n'emploient pas la cruauté envers eux, comme certains en ont eu et en ont encore l'habitude, et qu'après un certain nombre d'années de servitude ils les rendent libres. Note Fox était très en avance sur son temps. C'était 200 ans avant l'abolition de l'esclavage en Amérique, et c'était pour l'époque une proposition radicale mais manifestement issue de la direction du Seigneur, qui est toujours en avance sur les temps. En 1688, le gouvernement de Pennsylvanie, dominé par les Quakers, adopta une résolution appelant à la fin de l'esclavage, amorçant le long déclin de l'esclavage en Amérique. Bien des choses douces et précieuses furent ouvertes dans ces réunions, par l'Esprit et dans la puissance du Seigneur, pour l'édification, l'affermissement et la construction des amis, tant dans la foi que dans le saint ordre de l'Évangile. Après ces réunions, le navire à destination de l'Angleterre n'étant pas parti, je fus poussé à écrire une autre épître aux amis là-bas, dont voici la copie. Chers amis et frères, à qui va mon amour dans ce qui ne change jamais, mais demeure dans la gloire, qui est au-dessus de tout, la tête et la pierre angulaire. En cela vous avez tous paix et vie, tandis que vous demeurez dans la semence bénie. Ici tout est béni, au-dessus de ce qui a apporté la malédiction, là où sont toute petitesse, étroitesse d'esprit, fragilité et humeur chagrine. Gardez donc le saint ordre de l'Évangile. Demeurez dans cette semence bénie, où tous peuvent être gardés dans la tempérance, la patience, l'amour, la douceur, la justice et la sainteté, et la paix, afin que le Seigneur soit vu parmi vous et ne soit en rien déshonoré, mais glorifié par vous tous. Dans toutes vos réunions, dans les villes, bourgs et campagnes, réunions d'hommes, réunions de femmes, et autres, que la justice coule parmi vous, que la sainte vérité soit au premier rang, que l'Esprit pur soit votre guide et conducteur, et que la sainte sagesse d'en haut, qui ordonne tout, vous gouverne, elle qui est pure, douce et facile à fléchir. Demeurez dans la religion qui préserve des taches du monde, qui est pure et sans souillure aux yeux de Dieu. Demeurez dans le culte pur et saint, dans lequel le Dieu pur et saint est adoré, à savoir dans l'esprit et dans la vérité, dont le diable est hors, lui qui est l'auteur de toute impiété et de tout ce qui déshonore Dieu. Soyez sensibles à la gloire de Dieu, à son honneur, et à son nom béni et saint, en lequel vous êtes rassemblés. Vous tous qui professez la vérité, veillez à marcher en elle, dans la justice, la sainteté et la piété, car la sainteté cède à la maison de Dieu, à la maison de la foi. Ce qui orne la maison de Dieu, Dieu l'aime, car il aime la justice. Et c'est l'ornement qui part sa maison et toute sa famille. Veillez donc à ce que la justice se répande dans toutes vos assemblées, qu'elle coule pour chasser toute injustice. Cela conserve votre paix avec Dieu, car dans la justice vous avez tous la paix avec le Dieu juste de paix, et les uns avec les autres. Et ainsi que chacun qui porte le nom de loin, sous titre de chrétien, nommé d'après l'homme céleste, veille à être dans la nature divine et rendu conforme à son image, l'image de l'homme céleste et divin, qui était avant cette image déchu qu'Adam et Ève reçurent de Satan lors de la chute, de sorte qu'en aucun de vous cette image déchue n'apparaisse, mais son image, et que vous soyez rendus conformes à lui. Ici la transformation se montre dans la vie et la conduite, non en paroles seulement, oui, et la conversion et le repentir, qui est un changement de nature, d'esprit, de cœur, de l'âme et des affections, qui étaient en bas et viennent à être fixés en haut, recevant ainsi les choses d'en haut, et ayant votre conversation dans le ciel, non cette conversation qui est selon la puissance du prince de l'air, qui maintenant règne dans les désobéissants. Soyez donc fidèles, telle est la parole du Seigneur Dieu pour vous tous. Veillez à ce que la piété, la sainteté, la justice, la vérité et la vertu, les fruits du bon esprit, débordent sur le mauvais et sur ses fruits, afin que vous puissiez répondre à ce qui est de Dieu en tout, car votre Père céleste est glorifié en ceci, que vous portez beaucoup de fruits. Vous donc, qui êtes des plantes de sa plantation, ces arbres de justice, veillez à ce que chaque arbre soit plein de fruits. Demeurez dans la vraie humilité et dans le véritable amour de Dieu, qui édifie son corps, afin que la véritable nourriture venant de la tête, les rafraîchissements, les sources et les rivières d'eau, et le pain de vie soient abondamment connus et ressentis parmi vous, afin que des louanges montent vers Dieu. Soyez fidèles au Seigneur Dieu, et justes et vrais dans toutes vos relations et actions avec et envers les hommes. Ne soyez pas négliges, dans vos réunions d'hommes, d'avertir, d'exhorter et de reprendre dans l'esprit d'amour et de douceur, et de chercher ce qui est perdu, et de ramener ce qui a été chassé. Que tous les esprits, âmes et cœurs soient courbés sous le joug de Christ Jésus, la puissance de Dieu. Je pourrais beaucoup écrire, mais je suis faible, comme je l'ai été la plupart du temps depuis que je vous ai quitté. J'ai été sous des fardeaux et des labeurs, et j'ai traversé bien des chemins, mais cela va bien. Le Seigneur Tout-Puissant connaît mon œuvre, qu'il m'a envoyé accomplir par son bras et sa puissance éternelle, qui vont d'éternité en éternité. Béni soit son saint nom, en lequel je suis, et en lequel est mon amour pour vous tous. George Fox. Après cela je fus en état de voyager, et j'avais été un peu parmi les amis, lorsque j'allais rendre visite au gouverneur. Louis Morris, Thomas Rouse et quelques autres amis étaient avec moi. Il nous reçut très civilement et nous traita très aimablement, nous faisant dîner avec lui et nous gardant la plus grande partie de la journée avant de nous laisser partir. La même semaine, j'allais à Bridgetown. Il devait y avoir une réunion générale des amis cette semaine-là. Comme l'accueil bienveillant du gouverneur lors de notre visite était généralement connu des officiers civils et militaires, beaucoup vinrent à cette réunion depuis la plupart des régions de l'île, et tous n'étaient pas de basse condition, plusieurs étaient juges ou magistrats, colonels ou capitaines. Nous eûmes donc une grande réunion d'amis et d'autres personnes. La puissance bénie du Seigneur fut abondamment avec nous, et bien que je fusse quelque peu limité par le temps, trois autres amis ayant parlé avant moi, le Seigneur ouvrit des choses par moi, à la satisfaction générale et grande de ceux qui étaient présents. Le colonel Louis Morris vint à cette réunion, et avec lui un juge de la campagne nommé Ralph Fretwell, qui fut bien satisfait et reçut la vérité. Paul Gouin, un baptiste Crayler, entra dans la réunion, se mit à bavarder et me demanda comment j'appelais Caïn et si j'avais le même esprit que les apôtres. Je lui dis « oui », et il dit au juge d'en prendre note. Je lui dis « tu n'as pas une mesure du même Saint-Esprit que les apôtres, et tu es possédé d'un esprit impur ». Et alors il s'en alla. je rentrai cette nuit-là chez Louis Morris, ce qui faisait environ 9 ou 10 milles, parcourant une partie du chemin en bateau, le reste à cheval. Le lieu où se trouvait sa plantation me sembla avoir l'air le plus léger de l'île. Le lendemain, Thomas Briggs et William Edmondson vinrent me voir, ayant l'intention de quitter l'île le jour suivant et d'aller, pour le service du Seigneur, à Antigua et à Nevis. Louis Morris partit avec eux. À Antigua, ils tinrent plusieurs bonnes réunions, auxquelles afflua une grande foule, et beaucoup furent convaincus. Mais lorsqu'ils allèrent à Nevis, le gouverneur, vieux persécuteur, envoya des soldats à bord du navire pour les arrêter et ne leur permit pas de débarquer. Ainsi, après que les amis du lieu furent montés à bord avec eux et qu'ils eurent été doucement rafraîchis ensemble, en ressentant la puissance et la présence du Seigneur parmi eux, ils retournèrent à Antigua et y étant restés quelque temps encore, ils revinrent à la Barbade, Thomas Briggs étant très faible et malade. Parmi les autres amis, venus avec moi, James Lancaster, John Cantrey et George Patizon étaient partis quelque temps auparavant pour la Jamaïque, et d'autres amis vers d'autres lieux, de sorte que peu restèrent à la Barbade avec moi. Pourtant nous eûmes beaucoup de réunions grandes et précieuses, tant pour le culte que pour les affaires de l'Église, et à celle du culte, plusieurs sectes vinrent. À l'une de ces réunions, le colonel Lynn, homme posé, fut si satisfait de ce que je déclarai qu'il dit ensuite « À présent je puis disputer avec quiconque j'entends dire du mal de vous, qui prétend que vous ne reconnaissez pas Christ ou qu'il est mort, parce que je vois que vous exaltez Christ dans tous ses offices au-delà de tout ce que j'ai jamais entendu auparavant. » Cet homme, voyant une personne écrire les paroles de ce que je délivrais, lui demanda de lui en donner une copie, et resta un jour de plus avec nous avant de partir, tant un grand amour pour la vérité s'est élevé en lui. Et en effet, il y eut une très grande conviction dans la plupart des parties de l'île, ce qui fit grincer des dents et enrager les prêtres et certains professants. Nos réunions furent très grandes et sans perturbation de la part du gouvernement, bien que les prêtres et professants envieux s'efforçassent d'exciter les magistrats contre nous. Quand ils virent qu'ils ne pouvaient réussir de cette manière, quelques-uns d'entre eux, qui étaient baptistes, vinrent à la réunion de la ville, qui était pleine de gens de divers rangs et conditions. Une grande compagnie vint avec eux, et ils apportèrent un papier diffamatoire écrit par John Pennyman, avec lequel ils firent grand bruit. Mais le Seigneur me donna sagesse et parole pour répondre à leurs objections frivoles, de sorte que l'auditoire, dans l'ensemble, fut satisfait, et ses professants crêleurs perdirent du terrain. S'étant épuisés à force de clameurs, ils s'en allèrent, mais le peuple resta, la réunion continua, leurs sophismes frivoles furent davantage mis au jour et éclaircis, et la vie et la puissance de Dieu dominèrent tout. Mais la rage et l'envie de nos adversaires ne cessèrent pas, ils s'efforcèrent de diffamer les amis par de nombreux rapports faux et scandaleux, qu'ils répandirent dans toute l'île. Sur quoi, moi et quelques autres amis, rédigâmes un écrit, à publier au nom du peuple appelé Quakers, pour laver la vérité et les amis de ces faux bruits. Il était ainsi conçu, au gouverneur de la Barbade avec son conseil et son assemblée, et à tous les autres en autorité, tant civile que militaire dans cette île, de la part du peuple appelé Quakers, attendu que beaucoup de mensonges et de calomnies scandaleuses ont été jetés sur nous, pour nous rendre odieux comme « nous nions Dieu et Jésus-Christ et les Écritures de vérité, etc. » Ceci est pour vous informer que tous nos livres et déclarations, qui depuis de nombreuses années ont été publiés au monde, attestent clairement le contraire. Toutefois, pour votre satisfaction, nous déclarons maintenant clairement et sincèrement que nous reconnaissons et croyons en Dieu, le seul Dieu sage, tout-puissant et éternel, qui est le Créateur de toutes choses, tant dans le ciel que sur la terre, et le conservateur de tout ce qu'il a fait, qui est Dieu au-dessus de tout, béni pour toujours, à qui soit tout honneur, gloire, domination, louange et action de grâce, maintenant et à jamais. Et nous reconnaissons et croyons en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé et unique engendré, en qui il a mis tout son plaisir, qui a été conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, qui est l'image expresse du Dieu invisible, le premier-né de toute créature par qui toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trônes, de domination, de principautés ou de puissance, toutes choses. Et nous reconnaissons et croyons qu'il a été fait sacrifice pour le péché, lui qui n'a point connu le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, et qu'il a été crucifié pour nous dans la chair, hors des portes de Jérusalem, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour par la puissance de son Père, pour notre justification, et nous croyons qu'il est monté au ciel et qu'il siège maintenant à la droite de Dieu. Ce Jésus, qui était le fondement des saints prophètes et apôtres, est notre fondement, et nous croyons qu'il n'y a pas d'autre fondement à poser que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ, lequel, croyons-nous, a goûté la mort pour tout homme, et a répandu son sang pour tous les hommes, et est la propitiation pour nos péchés, et non pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier, selon le témoignage de Jean-Baptiste à son sujet lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Jean 1, 29. Nous croyons qu'il est seul notre Rédempteur et Sauveur, le chef de notre salut, qui nous sauve du péché aussi bien que de l'enfer et de la colère à venir, et qui détruit le diable et ses œuvres, qui est la semence de la femme qui brise la tête du serpent, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qu'il est, comme les Écritures de vérité disent de lui, notre sagesse et notre justice, notre justification et notre rédemption, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lui seul est le berger et l'évêque de nos âmes. Il est notre prophète, dont Moïse a témoigné depuis longtemps, en disant « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en toutes choses, tout ce qu'il vous dira, et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranchée du peuple. » Actes 3, 22-23. C'est lui qui est maintenant venu, et nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions celui qui est véritable, et il règne dans nos cœurs par sa loi d'amour et de vie, et nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Nous n'avons point de vie sinon par lui, car il est l'Esprit vivifiant, le second Adam, le Seigneur du ciel, par le sang duquel nous sommes purifiés, et nos consciences aspergées des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Il est notre médiateur, qui fait la paix et la réconciliation entre Dieu offensé et nous offensant, lui étant le serment de Dieu, la nouvelle alliance de lumière, vie, grâce et paix, l'auteur et le consommateur de notre foi. Or ce Seigneur Jésus-Christ, l'homme céleste, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous le reconnaissons et croyons tous, lui contre lequel le grand prêtre entra en fureur et dit qu'il avait blasphémé, lui contre lequel les prêtres et les anciens des Juifs tinrent conseil et le mirent à mort, le même que Judas trahit pour 30 pièces d'argent, que les prêtres lui donnèrent comme récompense de sa trahison, lesquels donnèrent aussi beaucoup d'argent aux soldats pour répandre un horrible mensonge, à savoir, que ses disciples vinrent et le dérobèrent. Et après qu'il fut ressuscité des morts, l'histoire des Actes des Apôtres expose comment les principaux prêtres et les anciens persécutèrent les disciples de ce Jésus pour avoir prêché Christ et sa résurrection. C'est, disons-nous, ce Seigneur Jésus-Christ-là que nous reconnaissons être notre vie et notre salut. Et quant aux Saintes Écritures, nous croyons qu'elles ont été données par le Saint-Esprit de Dieu, au moyen des saints hommes de Dieu, qui, comme l'Écriture elle-même le déclare, 2 Pierre 1, 21, ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Nous croyons qu'elles doivent être lues, crus et accomplis celui qui les accomplit, c'est Christ, et qu'elles sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, 2 Timothée 16-17, et qu'elles peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous croyons que les Saintes Écritures sont les paroles de Dieu, car il est dit en Exode 20, 1, Dieu prononça toutes ces paroles, disant, parlant des 10 commandements donnés sur le mont Sinaï. Et en Apocalypse 22, 18-19, Jean dit, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, non pas la Bible, qui n'était même pas imprimée au moment de la rédaction de l'Apocalypse, mais les paroles de ce livre de prophétie, l'Apocalypse. De même en Luc 1, 20, parce que tu n'as pas cru mes paroles. Et de même en Jean 5, 47, 12, 47, 14, 23, 15, 7. Ainsi nous appelons les Saintes Écritures, comme Christ, les apôtres et les saints hommes de Dieu les ont appelés, à savoir les paroles de Dieu. Une autre calomnie qu'ils ont jetée sur nous est, que nous enseignons aux nègres à se révolter, chose que nous abhorrons et détestons entièrement dans nos cœurs, le Seigneur le sait, lui qui sonde tous les cœurs, connaît toutes choses et peut témoigner pour nous que c'est une abominable fausseté. Ce que nous leur avons dit, c'est de les exhorter et de les avertir d'être sobres, de craindre Dieu, d'aimer leur maître et maîtresse, et d'être fidèles et diligents dans leur service et leur travail. Alors leur maître et surveillant les aimerait et les traiterait avec bonté et douceur, de même qu'ils ne doivent pas battre leurs femmes, ni les femmes leurs maris, que les hommes ne doivent pas avoir plusieurs femmes, qu'ils ne doivent pas voler, ni s'enivrer, ni commettre l'adultère, ni la fornication, ni maudire, jurer, ni mentir, ni se dire de mauvaises paroles. Mais s'ils les font, alors nous leur faisons savoir qu'il n'y a que deux voies, l'une qui mène au ciel, où vont les justes, et l'autre qui mène à l'enfer, où vont les méchants et les débauchés, les libertins, les adultères, les meurtriers et les menteurs. À l'un le Seigneur dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume préparé pour vous dès la fondation du monde. » À l'autre, « Retirez-vous de moi, maudit, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Ainsi les méchants vont dans le châtiment éternel, mais les justes dans la vie éternelle. Matt 25, 31-44. Considérez, amis, ce n'est pas une transgression pour un maître de maison d'instruire lui-même sa famille, ou pour d'autres de le faire en son nom, mais plutôt c'est un très grand devoir qui leur incombe. Abraham et Josué firent ainsi, du premier, nous lisons que le Seigneur dit Gênesis 18-19. Je sais qu'Abraham commandera à ses enfants et à sa maison après lui, et ils garderont la voie du Seigneur, pour pratiquer la justice et le jugement, afin que le Seigneur accomplisse sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Et du second, nous lisons qu'il dit, Josué 24:15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Nous déclarons que nous estimons qu'il est de notre devoir de prier avec et ou pour ceux qui sont dans nos familles et leur appartiennent, de les enseigner, instruire et avertir, ceci étant un commandement du Seigneur, et la désobéissance en cela provoquera son déplaisir, comme on le voit en Jer. 10:25, « Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. » Nègre métis indien compose une très grande partie des familles dans cette île, et il en sera demandé compte par celui qui vient juger les vivants et les morts au grand jour du jugement, quand chacun sera rendu selon les choses faites dans le corps, soit bonne, soit mauvais, en ce jour-là, disons-nous, de la résurrection des bons et des mauvais, des justes et des injustes, quand le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent. 2 Thess 1:8-10, voyez aussi 2 Pierre 3:7. Cette méchante calomnie, selon laquelle nous nous efforcerions de faire se révolter les nègres, nos adversaires saisirent l'occasion de la soulever du fait que nous avions quelques réunions parmi les nègres, car nous eûmes plusieurs réunions avec eux dans de nombreuses plantations, là nous les exhortions à la justice, à la sobriété, à la tempérance, à la chasteté, à la piété, et à être soumis à leur maître et gouverneur, ce qui était tout à fait contraire à ce dont nos adversaires envieux nous accusaient malicieusement. Comme j'avais rendu visite au gouverneur dès que j'étais arrivé et que je le pouvais, le gouverneur vint me rendre visite chez Thomas Roux et fut très courtois. Ayant passé 3 mois ou davantage à la Barbade, et ayant visité les amis, bien réglé les réunions, et accompli le service pour lequel le Seigneur m'y avait conduit, je sentis mon esprit dégagé de cette île, et je me trouvai attiré vers la Jamaïque. Ayant communiqué cela aux amis, j'en informai aussi le gouverneur, ainsi que plusieurs de son conseil, de mon intention. Je le fis afin que, de même que mon arrivée y avait été ouverte et publique, mon départ le fut également. Avant de quitter l'île, j'écrivis la lettre suivante à mon épouse, afin qu'elle comprît à la fois comment j'allais et comment je procédais dans mes voyages. « Mon cher cœur, à qui va mon amour, et à tous les enfants dans la semence de vie qui ne change pas, mais est au-dessus de tout, béni soit le Seigneur à jamais. J'ai enduré de grandes souffrances dans mon corps et dans mon esprit, au-delà des mots, mais que le Dieu du ciel soit loué, sa vérité domine tout. Je vais maintenant bien, et si le Seigneur le permet, d'ici quelques jours je partirai de la Barbade vers la Jamaïque, et je pense n'y rester que peu de temps. Je désire que vous soyez tous gardés libres dans la semence de vie, hors de tout embarras. Les amis vont généralement bien. Souviens-toi de moi auprès des amis qui prennent de mes nouvelles. Ainsi, rien de plus, sinon mon amour dans la semence et la vie qui ne change pas. » George Fox Barbade, le 6 jour du 11 mois, 1671. Je mis à la voile de la Barbade pour la Jamaïque le 8e jour du 11e mois, 1671. Robert Withers, William Edmondson, Solomon Eccle et Elizabeth Houghton vinrent avec moi. Thomas Brigg et John Stubb restèrent à la Barbade, avec eux étaient John Roos et William Bailey. Nous eûmes une traversée rapide et aisée jusqu'à la Jamaïque, où nous retrouvâmes James Lancaster, John Cartwright et George Patizon, qui y travaillaient au service de la vérité. À ces travaux nous nous joignîmes, parcourant cette grande île de haut en bas. C'est un pays magnifique, bien que beaucoup de ses habitants soient débauchés et méchants. Nous eûmes beaucoup de services, il y eut une grande conviction, et beaucoup reçurent la vérité, parmi eux des gens de considération selon le monde. Nous eûmes de nombreuses réunions là-bas, grandes et très paisibles. Les gens furent civils envers nous, si bien qu'aucune bouche ne s'ouvrit contre nous. Je fus 2 fois, auprès du gouverneur et de quelques autres magistrats, qui tous se comportèrent avec affection envers moi. Environ 1 semaine après notre débarquement en Jamaïque, Elizabeth Houghton, femme d'un très grand âge, qui avait beaucoup voyagé au service de la vérité et beaucoup souffert pour elle, quitta cette vie. Elle allait bien la veille de sa mort, et elle partit en paix, comme un agneau, rendant témoignage à la vérité à son départ. Note, Elizabeth Houghton fut l'une des premières personnes à être convaincue de la vérité par George Fox et la première femme à devenir ministre Quaker en 1650. Elle était l'épouse d'un homme de la haute société, et elle fut non seulement la première ministre Quaker, mais la 2e ministre de la société, et comptait parmi les vaillants 60, un groupe d'évangélistes suivant George Fox pour être envoyés par le Seigneur à travers toute l'Angleterre. Elle endura plusieurs emprisonnements, parfois durant plusieurs mois. En 1651, elle fut emprisonnée à Derby sur plainte pour avoir repris un prêtre, et l'année suivante elle fut emprisonnée au château de York pour avoir exhorté une assemblée à Rotterdam à la fin du service. En 1664, elle souffrit 5 mois d'emprisonnement à Lincoln pour avoir troublé une assemblée. À Selston, dans le Nottinghamshire, Elle fut violemment agressée en 1660 par Jackson, ministre du village, parce qu'elle était quaque, bien qu'elle ne semble même pas lui avoir parlé. En 1661, alors qu'elle avait plus de 60 ans, elle se rendit en Amérique pour un voyage missionnaire, arrivant à Boston en 1662. À cause des lois puritaines contre les Quakers, elle eut de grandes difficultés à obtenir nourriture ou abri. Alors qu'elle rendait visite à des Quakers en prison, elle fut conduite devant le gouverneur, John Endicott, qui, après l'avoir insultée, l'envoya en prison. Elle fut ensuite transportée à 2 jours de marche dans la forêt et y fut laissée pour mourir de faim. Elle réussit à trouver son chemin jusqu'à Rhode Island, obtint un passage pour la Barbade, retourna à Boston et après un bref séjour revint en Angleterre. Ayant obtenu de Charles Yee une licence pour s'établir dans l'une quelconque des colonies américaines, Elizabeth Houghton retourna à Boston, où elle tenta de s'installer, mais découvrit que la licence du roi était jugée invalide par les règles de la ville. Elle se rendit ensuite à Cambridge, où, parce qu'elle ne voulait pas renier sa croyance, elle fut jetée dans un cachot et tenue sans nourriture ni boisson pendant 48 heures, la personne qui l'a secourue étant condamnée à une amende de 5 livres pour cette infraction. Elle fut ensuite condamnée par le tribunal à être fouettée à travers 3 villes, ce qui fut exécuté au cœur de l'hiver et avec une grande sévérité. Elle fut alors de nouveau conduite au plus profond de la forêt et laissée. Elle retrouva encore son chemin jusqu'à une ville, où elle fut aidée, puis repartit. Après avoir visité Rhode Island, elle retourna à Cambridge, où elle fut de nouveau soumise à des traitements barbares. Elle revint en Angleterre et reprit son œuvre de prédicatrice itinérante, mais en 1665, elle fut incarcérée à la prison de Lincoln pendant 3 mois, accusée de troubler une assemblée. Elle fit 3 visites religieuses aux Amériques et accompagna George Fox en Amérique lors de sa visite, et en Jamaïque elle tomba soudain malade, mourant le lendemain, âgée d'environ 71 ans. Elle fut évangéliste ministre quake pendant 21 ans. Il y a sur ce site un mémoire sur Elizabeth Houghton, avec plus de détails sur sa vie et ses souffrances. Après avoir passé environ 7 semaines en Jamaïque, avoir mis les amis en assez bon ordre et établi plusieurs réunions parmi eux, nous y laissâmes Solomon Eccles. Le reste d'entre nous s'embarqua pour le Maryland, laissant en Jamaïque les amis et la vérité prospère, la puissance du Seigneur étant au-dessus de tout, et sa semence bénie régnant. Avant de quitter la Jamaïque, j'écrivis une autre lettre à mon épouse, comme suit « Mon cher cœur à qui va mon amour et aux enfants dans ce qui ne change pas mais est au-dessus de tout, et à tous les amis dans ces régions. Je suis en Jamaïque depuis environ 5 semaines. Les amis vont généralement bien, et il y a ici une conviction, mais les choses seraient trop nombreuses pour en écrire. Les souffrances m'accompagnent en tout lieu, mais la semence bénie est au-dessus de tout, que le grand Seigneur soit loué, lui qui est le Seigneur de la mer et de la terre, et de toutes choses qu'elles contiennent. Si cela plaît au Seigneur, nous avons l'intention de partir d'ici vers le commencement du mois prochain en direction du Maryland, que vous demeuriez tous dans la semence de Dieu. Dans sa vérité, je demeure dans l'amour pour vous tous. » George Fox, Jamaïque, le 23 jour du 12 mois, 1671. Nous montâmes à bord le 8 jour du 1er mois 1671, et ayant des vents contraires, nous passâmes une semaine entière à naviguer en avant et en arrière avant de pouvoir perdre la Jamaïque de vue. Ce fut un voyage difficile et assez dangereux, surtout lors de notre passage dans le golfe de Floride, où nous rencontrâmes de nombreux vents et tempêtes. Mais le grand Dieu, Seigneur de la mer et de la terre, et qui chevauche sur les ailes du vent, nous préserva par sa puissance à travers de nombreux et grands dangers, lorsque, sous l'extrême violence du temps, notre navire risqua plusieurs fois de chavirer, et qu'une grande partie de son gréement fut brisée. Et en vérité, nous sentions que le Seigneur était un Dieu proche, et que son oreille était ouverte aux supplications de son peuple. Car lorsque les vents étaient si forts et impétueux, et les orages et tempêtes si grands que les marins ne savaient que faire sinon laisser le navire aller où il voulait, alors nous prions le Seigneur, qui nous guérit et nous accepta avec grâce, apaisa les vents et les mers, nous donna un temps favorable, et nous fit nous réjouir en son salut. Béni et loué soit le saint nom du Seigneur, dont la puissance a domination sur tout, et à qui les vents et les mers obéissent. Nous demeurâmes entre 6 et 7 semaines dans ce passage de la Jamaïque au Maryland. Quelques jours avant d'atteindre la terre, après être entrés dans la baie de la rivière Patux, une grande tempête s'éleva, qui jeta sur nous, pour se mettre à l'abri, une embarcation dans laquelle se trouvaient beaucoup d'hommes et de femmes de considération selon le monde. Nous les prîmes à bord, mais l'embarcation fut perdue, avec pour 500 livres de marchandises, comme ils le dirent. Ils restèrent à bord avec nous plusieurs jours, n'ayant aucun moyen de partir, et nous eûmes avec eux une très bonne réunion dans le navire. Mais les provisions vinrent à manquer, car ils n'en avaient apporté aucune avec eux, et les nôtres, à cause de la longueur de notre voyage, étaient presque épuisés lorsqu'ils nous rejoignirent, de sorte qu'avec leur consommation en plus, il ne nous en resta bientôt que peu, voire point du tout. Alors Georges Patizon prit une barque et risqua sa vie pour gagner la côte. Le danger était si grand que tous, sauf les amis, conclurent qu'il périrait. Pourtant, il plut au Seigneur de le conduire sain et sauf à terre, et peu après, les amis du lieu vinrent nous amener à terre également, au bon moment, car nos provisions étaient consommées. Nous éprouvâmes encore, durant ce voyage, une autre grande délivrance par la bonne providence du Seigneur, que nous ne comprîmes que plus tard. Lorsque nous fûmes décidés à quitter la Jamaïque, nous eûmes le choix entre deux bâtiments, tous deux en partance pour la même côte. L'un était une frégate, l'autre un yacht. Nous jugeâmes que le capitaine de la frégate demandait un prix déraisonnable pour notre passage. Nous acceptâmes donc l'offre du capitaine du yacht, qui nous proposait de nous transporter pour 10 shillings de moins par personne. Nous montâmes à bord du yacht, et la frégate appareilla en même temps que nous, ayant l'intention de nous accompagner durant la traversée, et pendant plusieurs jours nous naviguâmes ensemble. Mais entre les calmes et les vents contraires, au bout d'un moment nous fûmes séparés. Ayant perdu sa route, la frégate fut capturée par les Espagnols, pillée et dévalisée, tandis que le capitaine et le second furent faits prisonniers. La frégate fut ensuite reprise par les Anglais et renvoyée à ses propriétaires en Virginie. Quand nous l'apprenâmes, nous vîmes et admirâmes la providence de Dieu, qui nous avait préservés des mains de nos ennemis, et celui qui était avide tomba parmi les avides. Ici nous trouvâmes Burneyat, qui avait l'intention de voguer bientôt vers la vieille Angleterre, mais à notre arrivée il changea de dessein et se joignit à nous dans le service du Seigneur. Il avait fixé une assemblée générale de tous les amis de la province du Maryland, afin de les voir réunis et de leur faire ses adieux, avant de quitter le pays. Et ce fut ainsi ordonné par la bonne providence de Dieu que nous débarquâmes juste à temps pour atteindre cette réunion, ce qui nous donna une occasion très opportune de rassembler les amis de la province. Ce fut une assemblée très importante, qui dura 4 jours et fut fréquentée par les amis et par beaucoup d'autres personnes, dont plusieurs occupaient des positions éminentes dans le monde, car il y avait 5 ou 6 juges de paix, le président de leur assemblée, un membre de leur conseil, et d'autres personnes notables, qui parurent fort satisfaites de la réunion. Après la fin des réunions publiques, commencèrent les réunions d'hommes et de femmes. Là, j'expliquai aux amis le service auquel ces réunions étaient destinées, à leur grande satisfaction. Ensuite, nous allâmes aux falaises, où une autre assemblée générale avait été fixée. Nous fîmes une partie du chemin par terre, le reste par eau. Une tempête s'éleva et notre embarcation échoua, en danger d'être mise en pièces, et l'eau entra dans le bateau. J'étais en grande sueur, étant sorti très échauffé d'une réunion peu auparavant, et maintenant, de plus, j'étais trempé par l'eau. Toutefois, ayant foi dans la puissance divine, je fus préservé de tout mal, béni soit le Seigneur. Beaucoup vinrent à cette réunion et reçurent la vérité avec révérence. Nous eûmes aussi une réunion d'hommes et une réunion de femmes. La plupart des relâchés revinrent, et plusieurs de ces réunions furent établies pour veiller aux affaires de l'Église. Après ces 2 assemblées générales au Maryland, nous nous séparâmes, nous répartissant sur plusieurs côtes au service de la vérité. James Lancaster et John Cartwright partirent par mer pour la Nouvelle-Angleterre. William Edmondson et 3 autres amis naviguèrent vers la Virginie, où les choses étaient fort en désordre. John Burneyat, Robert Withers, Georges Patizon et moi, avec plusieurs amis de la province, passâmes en bateau sur la rive orientale et y tînmes une réunion le premier jour. Là, beaucoup de personnes reçurent la vérité avec joie et les amis en furent grandement rafraîchis. Ce fut une réunion très nombreuse et céleste. Plusieurs personnes de qualité de ce pays y assistèrent, dont 2 étaient juges de paix. Note de Valiant for the Truth, alors que George Fox était en mission en Amérique, ses frères restés au pays se réjouissaient d'un répit temporaire de la persécution. En 1672, se disant touché par les souffrances d'une grande partie de ses sujets et par le désir de favoriser l'Union, le roi Charles y publia une proclamation suspendant l'exécution de toutes les lois pénales contre ceux qui ne se conformaient pas à la doctrine, à la discipline et au gouvernement de l'Église établi par la loi. Peu après la publication de cette déclaration d'indulgence, les amis, toujours prêts à secourir leurs frères, s'empressèrent de prendre les mesures nécessaires concernant les 400 souffrants qui étaient incarcérés en prison, dont certains y étaient depuis 10 ou 11 ans. George Whitehead, âgé de 26 ans, et Thomas Moore furent autorisés à paraître devant le conseil à Whitehall pour plaider leur cause. Le plaidoyer de Whitehead fut si bien mené que le roi dit « Je leur accorderai mon pardon » et ordonna que les lettres patentes nécessaires fussent établies. Comme le nombre de prisonniers était très grand, les frais pour obtenir leur libération séparée auraient représenté une somme considérable, mais le roi ordonna que le pardon, bien qu'il en comprît tant, ne fût taxé que comme un seul, et le Lord Keeper remit volontairement ses honoraires. Il fallut 11 peaux de parchemin pour en faire une copie honnête, et beaucoup de travail fut nécessaire afin de la rendre utilisable aussi rapidement que possible pour ces êtres épuisés, si longtemps séparés de leur foyer et de leurs amis. Les amis de Londres, toutefois, ne se laissèrent pas décourager par les difficultés ni par la dépense, et en peu de temps eurent la joyeuse assurance que tous ceux qui entraient dans le champ des lettres patentes étaient remis en liberté. Il y avait d'autres dissides non quakers en prison, et George Whitehead, l'agent actif des amis, fut sollicité de contribuer à leur délivrance. Il y consentit volontiers, car, dit-il, le fait que nous soyons de jugements et de sociétés différentes n'amoindrissait pas ma charité ni ma compassion, même envers ceux qui avaient été mes opposants en certains cas. Béni soit le Seigneur mon Dieu, qui est le Père et la source des miséricordes, dont l'amour et les miséricordes en Jésus-Christ envers nous devraient nous obliger à être miséricordieux et bons les uns envers les autres. Il conseilla que les noms des prisonniers fussent envoyés au roi, avec une pétition pour obtenir son mandat, afin qu'ils soient inscrits dans les mêmes lettres patentes que les Quakers. Le roi accorda la pétition, et eux aussi furent remis en liberté. Parmi ceux ainsi relâchés se trouvait John Bunyan, dont l'emprisonnement de 12 ans à la prison de Bedford donna au monde l'allégorie, le voyage du pèlerin. John Bunyan était un ministre baptiste et un ennemi des Quakers, ayant écrit plusieurs livres très critiques à l'égard de la foi quake. Cliquez pour lire les réfutations de Fox au livre 1 et au livre 2 de Bunyan. Retour suivant.